France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Du métal, des gifles et des tutos. Plan large est au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand avec Nathalie Mousteata et Alexandre Singh, Paul Kermarek et Benoît Méry et aussi Sandra Onana. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large en direct et en public de la Comédie de Clermont-Ferrand pour la 47e édition du Festival international du court-métrage du même nom. Un vent mauvais souffle sur la culture en France depuis qu'il y a 2 ans, la vaste région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé la funeste vogue qui a vu des collectivités locales de tous bords politiques, tant manifestement l'acculturation des élites se généralise, se désengager plus ou moins radicalement d'une de leurs missions essentielles, si ce n'est obligatoire, le financement public de la culture et de ses manifestations. Amputé ainsi depuis 2 ans d'une part substantielle de son budget, le Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, même s'il a dû en rabattre en termes de nombre de films et de programmes présentés, n'en reste pas moins la manifestation la plus importante du genre en France comme à l'international. En témoigne l'afflux toujours aussi important de spectateurs. L'an dernier, malgré déjà une version réduite, a connu la deuxième meilleure affluence de son histoire. En témoigne aussi l'exigence jamais prise en défaut de son très collectif comité de sélection qui, cette année encore, rend justice à la diversité et à l'audace d'un format où continue à s'inventer l'avenir du cinéma et de ses formes, à l'image des 3 films courts mais riches que nous avons retenus cette année pour ce plan large clermontois entre dystopie bunuelienne, quête virtuelle et apocalypse métal. En fin d'émission depuis Paris, Sandra Onana explorera la dialectique amoureuse et politique au cœur de La Maison et le Monde, le chef-d'œuvre de Satyajit Ray de 1984, réédité en copie restaurée cette semaine. Mais pour l'heure, on est samedi après-midi et c'est le moment idéal pour faire ses courses dans les grands magasins.
Je vous prie sincèrement de m'excuser, madame. J'étais occupée avec une autre cliente. Laissez, je m'en occupe. Et à l'avenir, n'hésitez pas à me solliciter. Je serai toujours disponible pour madame.
Angine était la meilleure cliente de Pétulante. Sa vente moyenne était de 11. Son record, de 32.
Ce qui nous fait pour aujourd'hui un total de...
31.
31 était une grosse vente. Pas aussi grande que 32, mais une vente importante. Tout de même.
Trente et un, trente, vingt-neuf, vingt-huit, vingt-sept.
Félicitations, Malaise. C'est bien.
Alors pour celles et ceux qui n'ont pas l'image, ce sont bien des gifles qu'on entend ici, puisque dans votre film, Alexandre Singh, Nathalie Mousteata, c'est ainsi qu'on paye ses menus ou gros achats, et plus c'est cher, plus évidemment on s'en prend plein la figure. Bonjour.
Bonjour.
Deux personnes échangeant de la salive, c'est le titre de votre film qui arrive à Clermont-Ferrand en compétition nationale, déjà auréolé d'un succès international, puisqu'il a remporté le grand prix du jury au très select festival de l'American Film Institute à Telluride. Alors au départ, c'est sinon une commande, du moins c'est une proposition d'une société de production française, Misia Film, écrire un film qui se tournerait de nuit aux Galeries Lafayette. Comment de cette proposition est né un film où non seulement on se paye en donnant des gifles, gifle, je l'ai dit, mais où tout baiser, l'échange de salive du titre est puni de mort. Ben, Alexandre Singh.
Merci de nous accueillir. On veut dire aussi que nous sommes des énormes fans de Plan Large.
Ah ben, c'est nous qui vous remercions.
C'est un coup de cœur d'être sur Plan Large. Cette idée nous est venue pendant le Zoom meeting où Media Films nous a demandé « Est-ce que vous avez une idée ?» Et c'est nous venu d'une façon un peu inconsciente, juste cette image des gens qui se payent avec les gifles.
Oui, c'était vraiment dans un moment, Alex a dit... Violette et Valentin, nous avons demandé si on a une idée pour un film dans un grand magasin. C'était juste comme ça qu'Alex a dit, mais pourquoi pas un film où les gens payent pour les choses en recevant des gifles. Et tout le monde a dit, OK, peut-être, pourquoi pas. Et après, l'idée du la partie romantique, c'était venu. Donc, ça commençait, oui, avec ce truc très bizarre.
Mais c'est souvent, parlons de Buñuel, c'est souvent dans l'inconscient qu'une image nous arrive dans la tête. Et après avoir écrit le film, le tourner, le monter, peut-être en parlant ici aujourd'hui, on se rend compte qu'est-ce que ça signifie ou qu'est-ce que ça touche comme idée. Il y a un texte que j'avais lu quand j'étais étudiant d'art qui s'appelle The Theory of the Leisure Class, la théorie de la classe aisée par Thorstein Veblen, qui parle de la façon dont les gens qui sont riches et aisés font des démonstrations de leur argent et de leur puissance avec des achats ou des dépenses qui sont inutiles. Et quand je vois ça un peu dans notre société, on a dit que ce serait intéressant de l'amener ça vraiment dans l'absurdité.
Oui, mais vous avez d'ailleurs un rapport assez ambivalent à la marchandise que vous filmez, à la marchandise de luxe, ça peut être des sacs, des chaussures, des gants, etc. Parce que vous le célébrez à la fois dans sa beauté objective, enfin, sont des beaux objets, mais vous montrez aussi ce que c'est-à-dire le symbole d'un manque impossible à combler, alors qui serait par exemple le manque d'amour.
Et une chose que c'est un peu anecdotique, mais en tournant ce film dans les magasins de la nuit, quand il n'y a personne, il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas de vendeuse, il n'y a pas de client, tous ces objets sur les tables, qui ont une valeur immense dans notre vie, que les gens ont une envie énorme, devient rien du tout. Et c'est vraiment, on se rend compte que c'est vraiment le théâtre de l'achat, le théâtre, c'est quelque chose qui existe dans nos têtes et pas dans les objets eux-mêmes. D'une façon, c'est comme un rituel religieux.
Ben, on était inspiré par toutes les absurdités dans notre vie, dans notre monde, qu'on accepte, comme les cartes de crédit. Ça, c'est aussi une absurdité. Y a plein de choses. Et donc, on a dit, mais... Qu'est-ce qui se passe si on détourne les choses juste un peu et ça rend...
Deuxième détournement, le plus important qui est...
Que c'est interdit de s'embrasser.
Alors ça, c'est venu d'où là ? On ne va pas encore vous psychanalyser sur les idées que vous avez, mais on peut imaginer que le temps du confinement et des rapports de proximité interdits se sont retrouvés quelque part dans votre film.
Oui, absolument. On ne peut pas éviter l'aspect politique. Il y a beaucoup de sociétés dans notre monde qui font des renversements réactionnaires ou ont toujours été théocratiques. Et ça se voit dans des pays où on l'imagine.
De plus en plus aux États-Unis. Oui. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer maintenant. Mmh. Et tous les jours, quand on ouvre les journaux, les journaux, on dit mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? Donc, mais on accepte ces choses parce qu'on doit vivre, on doit prendre soin de nos enfants, on doit vivre. Mais il y a plein de choses que dans le monde, pas seulement dans les pays islamiques, mais aussi dans nos pays qui sont vraiment bizarres.
Nous pensons qu'il y a un pouvoir dans, bien sûr, les films absurdes ou dans les films de science-fiction, mais aussi dans les films historiques, des films qui se passent dans des autres cultures. C'est dans cette semblable différence qu'on fait penser à notre vie quotidienne. Et de temps en temps, ça peut être un film aussi lointain de notre expérience habituelle comme Alien de Ridley Scott, qui nous fait penser à ce que c'est d'être enceinte, par exemple, pour une femme. Ça peut apparaître loin de nous et absurde, mais je pense que ça peut aussi résonner avec le quotidien.
Mais au-delà même de l'histoire du cinéma, votre film s'inscrit volontairement par son titre même, deux personnes échangeant de la salive dans une histoire de l'art qui est convoquée dans votre film. Les têtes de chapitre sont telle peinture, telle sculpture qui montre des personnages s'embrasser. Alors ce qui est drôle, c'est que ces images se retrouvent dans le film comme des images pornographiques qu'on se glisse sous le manteau et qu'on regarde chez soi pour fantasmer sur une possibilité du désir. Vous avez voulu, comme ça, inscrire votre film dans cette histoire de l'art? Je précise que vous venez tous les deux du monde de l'art. Vous êtes commissaire d'exposition, qui artiste faisant des installations?
Oui, c'était comme on vient du monde de l'art, c'était naturel pour nous de faire ça. Et c'est après qu'on a écrit le scénario, qu'on a revu le film de Buñuel,
Le fantôme de la liberté,
où il y a des cartes postales des bâtiments.
Monuments parisiens qui sont discutés comme si c'était des objets pornographiques. On a eu une autre idée avant de revoir ce film, mais peut-être c'est un de ces films qu'on avait vu comme enfant et ça avait glissé dans notre imaginaire.
Mais en même temps, oui, on vient du monde de l'art, donc c'était... Oui.
Il y a une peinture en particulier qui n'est pas dans le film, mais qui est un peu un esprit près de nos cœurs pendant tout le tournage de ce film. C'est une peinture par Magritte. C'est deux personnages, un homme et une femme. L'homme est dans un costume et tous les deux ont un sac blanc qui cache le visage. Ils sont en train de s'embrasser. Et il y avait, revenons à une idée ou une image inconsciente, il y avait quelque chose de très frappant et marquant dans cette image qui nous a guidés. Et oui. pour dire que nous sommes plasticiens, bon, moi je suis plasticien, mais nous sommes à la même fois très influencés par la musique, l'opéra, le cinéma, les BD, la littérature, toutes ces choses nous influencent dans notre travail plastique et aussi dans notre nouveau travail cinématographique.
Alors, c'est certainement précisément parce que vous veniez du monde de l'art que peut-être les productrices de ce film sont venues vous chercher, parce que c'est en association avec les Galeries Lafayette et en particulier avec celui qui est le directeur de la communication et de l'image du groupe, Guillaume Houzé, qui est très féru d'art contemporain. C'est lui qui dirige aussi Lafayette Anticipation, la fondation pour l'art contemporain des Galeries Lafayette. Ça a été pris comment, quand même, en interne aux Galeries Lafayette, ce portrait du grand magasin comme lieu d'aliénation, de jeu trouble, pour ne pas dire sadomasochiste, entre classe sociale?
Je crois que c'est très impressionnant parce qu'ils n'ont jamais dit non. C'était vraiment tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on voulait faire. Ils ont dit oui. Ils étaient toujours derrière nous. Et
c'est quelque chose. Nous écrivons dans un petit groupe d'artistes, cinéastes à New York. Et ils nous ont dit, vous avez vraiment écrit quelque chose de super. C'est vraiment un progrès dans votre travail. Malheureusement, personne ne va vous laisser tourner ça, jamais.
En France, tout le monde a dit oui.
Et je pense que c'est très puissant d'être honnête dans la mode avec ce que c'est la mode. La mode, c'est quelque chose où on veut projeter la beauté, le pouvoir. Mais dans la mode, il y a aussi une tristesse parce qu'à l'étape où on a l'argent pour pouvoir acheter de la mode, on est déjà en train de vieillir. Et donc, on est toujours un peu derrière ce standard de beauté qu'on cherche. Et c'est dans le même sens que les hôpitaux sont où les gens sont nés, mais c'est aussi où les gens meurent. Et dans la mode, il y a la beauté, mais il y a aussi, pour moi, inconsciemment, la mort et la vieillesse et l'amour, mais aussi la manque d'amour.
Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Frédéric Wiseman qui s'appelle The Store, qui avait été tourné dans un grand magasin à Dallas et qui, de façon documentaire, raconte finalement la même chose que vous.
Non. Je crois que quelqu'un nous avait dit nous avait raconté du film, mais on ne l'a pas encore vu.
Oui.
Je vous le recommande. Paul Kermarek, on va vous entendre dans un instant parler de votre propre film, Ni Dieu ni Père. Vous avez vu ces deux personnes échangeant de la salive?
Oui, je l'ai vu il y a quelques jours.
Et
j'ai passé un super moment. Vous avez beaucoup parlé du fond, mais je trouve qu'il y a aussi la forme qui est... c'est rare d'avoir des noirs et blancs qui sont beaux et balancés, je trouve. Et esthétiquement, je pense que c'est important de le dire aussi... visuellement, c'est beau, quoi. Il y a, il y a, il y a une, vrai réel et ouais, enfin je sais pas, moi je suis sensible au noir et blanc et à la manière dont ils sont balancés, et je trouve qu'on voit beaucoup de choses en noir et blanc et souvent c'est pas assez rare quand c'est bien, enfin quand je les trouve beaux, et là c'était le cas.
C'est une façon très intéressante d'y penser au noir et blanc. Moi j'ai pas pensé, mais d'une façon, en enlevant la couleur on voit les choses plus claires.
Ouais,
on peut pas se cacher, ouais, c'est très poétique.
Mais c'était justement ce choix du noir et blanc, c'était une manière de se défier de ce qu'il peut y avoir de rutilant, de clinquant dans la marchandise que vous filmiez.
Bah au début c'était parce qu'on on raconte une histoire à Paris en France, mais en même temps c'est une dystopie, c'est pas vraiment notre monde, donc on voulait avec le noir et blanc qui est un peu de distance et aussi bah il y avait le magasin qu'on peut pas contrôler vraiment parce que c'est un magasin qui est ouvert tous les jours.
7 jours sur 7.
Oui, donc on a dit, OK, en noir et blanc, on a un peu plus de contrôle.
Et ça dit, ce magasin qui est sur le Champs-Élysées et qui était anciennement un Virgin Megastore et avant ça une banque d'origine, quand on le voit en noir et blanc, les os de ce bâtiment s'apparaissent et on se pense, moi je pense à The Conformist de Bertolucci. Quand je vois ce bâtiment, et je pense aux scènes où il est en train de se promener dans les bâtiments fascistes, et je pense que ça a aidé à souligner cet aspect de l'histoire.
On pourrait penser aussi au playtime de Tati sur ce qu'il a fait de l'architecture moderne de son époque. Alors on entend vos beaux accents, mélange de français, de roumain, d'anglais, d'indien. On précise que vous vivez en plus à Brooklyn, vous l'avez dit tout à l'heure, pour New York. Vos productrices, l'une est italienne, l'autre est argentine, et vous avez choisi des interprètes qu'on a entendu tout à l'heure, c'est Zahramir qui vient d'Iran, Luana Bajrami, formidable, qui vient, elle, du Kosovo. Toutes deux, d'ailleurs, sont des réalisatrices.
Oui,
tous les deux. Vous les avez choisies, entre autres, pour cela.
Oui, le film, c'est un peu un mélange entre deux styles, le style américain, le style européen, art house. Et nous aussi, moi, je suis née aux États-Unis, mais je suis d'origine roumaine. Toute ma famille vient de Roumanie. Et Alex est moitié français, moitié indien. Donc, on comprend ce truc d'être...
D'être à part.
Oui.
D'être l'autre. Un de nos... peut-être les metteurs en scène qui nous ont influencés le plus, que nous aimons le plus, si on va dire un, et que leurs affiches sont partout dans notre bureau, c'est Powell et Pressburger. Et Powell et Pressburger semblent faire les films les plus britanniques possibles, mais avec... une distribution de exil, des Allemands, des Autrichiens, des gens qui ont fui à l'Allemagne nazie. Et leurs films sont des films très imaginaires, mais qui ont une résonance politique contemporaine. Et ont voulu, de notre façon, rassembler des exils, des gens qui sont un peu à part, et avec eux, faire un film très français.
Mais en plus, ça c'est le monde de le 21e.
On en est déjà au 21e.
Oui, c'est vrai. c'est de venir de partout et oui.
Alors, je crois savoir que peut-être grâce au succès au festival de Telluride, comme je le disais tout à l'heure, une version longue de ce court-métrage est en cours d'écriture.
Oui, on va participer en groupe Ouest dans un programme dans quelques semaines où on va commencer à écrire le long métrage. On a déjà plein d'idées, mais l'idée est vraiment d'être un peu plus avec ces personnages parce que c'est un film absurde, c'est un film bizarre, mais en même temps, c'est vraiment un film de ces trois personnages. La condition humaine. Et donc, c'est ça qu'on veut, l'histoire de la jalousie, l'amour, c'est ça qui compte, c'est la partie émotionnelle.
Oui, c'est absurde, mais en même temps, vous le filmez très au sérieux. C'est-à-dire que vos personnages ont des noms invraisemblables. Ils s'appellent Malaise, Angine, Pétulante, et je vous passe les chagrins, Jérémiade, Arnaque et autres. Mais vous filmez ça très sérieusement. C'est-à-dire que ce qui compte au bout du compte, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a deux personnages dans le même plan, qu'on se rapproche en gros plan, et est-ce qu'ils vont s'embrasser, quoi.
C'est exactement les mêmes règles de la comédie, par exemple. Si on joue de la comédie et les comédiens savent que c'est une blague, c'est pas amusant. il faut que le personnage le prenne au sérieux. Et c'est la même chose pour les comédies noires, un peu comme notre film, et les comédies absurdes. Et on a traité ça comme un film très, très réel.
C'était très important pour nous que c'est ancré dans la réalité, même si c'est absurde. Qu'on comprend qu'il y a des... Des conséquences.
Oui. Ça se dit pareil.
C'est un mot français.
Ouais. Merci beaucoup, Nathalie Mousteata et Alexandre Singh. On se retrouvera donc bientôt, j'espère, dans cette émission, à nouveau, pour parler de la version longue de deux personnes échangeant de la salive. Vous écoutez France Culture, plan large, en direct et en public de la comédie de Clermont-Ferrand. Et vous restez avec nous. On vous embarque dans un autre monde tout aussi dystopique. Et pourtant, c'est bien le nôtre.
Je suis né en 1998. Je dois faire partie des dernières générations à ne pas être né avec Internet. Google est arrivé dans ma vie quand je devais avoir 10 ans. Mon père est parti quand j'en avais 4. Du coup, à défaut d'avoir eu un père, j'ai eu Google et j'ai très vite compris lequel des deux allait le plus m'aider dans la vie. Google m'a appris à me raser.
Nombreux sont les hommes qui se rasent tous les jours. Cependant, connaissez-vous vraiment toutes les astuces pour que votre rasage soit le plus efficace et le moins irritant possible ?
Tu peux commencer à te raser, mais tu n'as pas un père ou un frère aîné qui pourrait t'aider.
Ça tranche, ça tire pas, c'est net, c'est en douceur.
Google m'a appris à me battre. Google m'a appris à bricoler.
À savoir que si vous êtes gaucher, vous attaquerez le mur à gauche.
Google m'a appris à mettre une capote.
Il y a des infos très importantes sur l'emballage qu'il faudra de toute manière vérifier.
Vérifiez alors que le sens de déroulement du préservatif est dans le bon sens.
S'il s'agissait d'un vrai pénis, j'utiliserais mes deux mains. Une pour pincer le bout et l'autre pour dérouler le condom jusqu'à la base du pénis.
Et puis pour tout ce qu'on n'apprend pas sur Internet, j'avais mes amis d'enfance. Eux, je les ai toujours beaucoup observés, beaucoup pris en photo. Beaucoup trop même.
Et l'écran de votre ordinateur de déborder effectivement de photos de vos amis. Rebonjour Paul Kermarek. C'est le début de votre film Ni Dieu ni Père qu'on vient d'entendre. Il est en sélection Labo au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Alors Labo, c'est là où on trouve les œuvres les plus expérimentales, détonnantes, voire bizarres du moment. Enfin, je crois que c'est le cas de tous les films dont on parle aujourd'hui. Petite précision biographique peut-être pour commencer. Est-ce qu'on doit croire tout ce qu'on vient d'entendre, Paul Kermarek? Est-ce que c'est vous qui parlez ou est-ce que c'est un avatar de fiction?
C'est déjà merci de m'inviter, je suis très heureux d'être là.
Et
est-ce qu'on doit y croire? Je sais pas. Je sais pas si on doit croire à tout. On glisse progressivement dans une fiction à travers ce film. Je voulais bien sûr raconter un peu une histoire personnelle, donc ça part de là, mais l'ouvrir à des questionnements plus universels et grossir aussi le trait des questions de transmission, de représentation, et là avec les extraits qu'on vient d'entendre de gestes qui nous font devenir adultes et les questionner et voir comment Internet pouvait nous aiguiller ou nous aider en manque de modèles. C'était ça, donc non, faut pas croire à tout, mais un peu quand même.
Alors il faut préciser ce qu'on voit à l'écran, puisque là on a entendu que le son. Ce qu'on voit, c'est un écran, précisément un écran d'ordinateur où défilent, quand on les lance, les images dont on a entendu les sons. C'est ce qu'on appelle un screen life movie, je crois, un film d'écran en français. C'est une forme qui est apparue depuis une dizaine d'années à peu près. Il y a un réalisateur russo-kazakh qui s'en est fait une spécialité dans le genre horrifique avec Unfriended ou Searching. Vous en emparez pour un essai autobiographique. Alors, est-ce que c'est une façon de nous mettre totalement dans votre peau ou de celle de votre avatar, celle de votre personnage?
Je sais pas si c'est... En tout cas, pour moi, c'était une façon de raconter une histoire avec un médium qui me le permettait sans avoir besoin de sortir des moyens incroyables. Et ça parlait d'Internet, ça parlait d'intelligence artificielle. Et je me suis dit qu'en fait, le meilleur moyen, c'était juste d'enregistrer mon écran d'ordinateur et de raconter ce que j'avais à raconter. Mais ouais, bien sûr, ça aide aussi à à se représenter la chose. On est tous derrière notre ordinateur et on a tous ce rapport très intime, finalement, avec Internet, avec les recherches qu'on fait, les questions qu'on pose et les réponses qu'on a.
Bah, c'était d'autant plus troublant pour moi qui n'ai pas eu la chance de le découvrir en salle encore, de l'avoir découvert sur mon écran d'ordinateur. Donc évidemment, on ne sait plus où on est à ce moment-là. Mais c'est aussi, et on en a entendu des extraits, une façon pour vous d'explorer cette forme nouvelle, je crois qu'il n'y avait pas d'équivalent avant, qui est le tuto Internet, ouais. Qui est à la fois une source de joie, de comique parfois, mais aussi de grande mélancolie.
Ouais, bah c'est je trouve que les tutos Internet, c'est super, ça nous ramène à plein de choses. C'est une sorte d'égalisation des savoirs et très vite on peut se renseigner sur plein de choses et devenir hyper compétent sur plein de choses. Parfois ça peut être très frustrant quand c'est des enfants de 13 ans qui n'ont pas mué qui t'expliquent comment faire les choses, mais ouais, ça m'a moi en tout cas, j'ai gros consommateur de tutos, ça m'a beaucoup aidé, notamment pour je le cite dans pour apprendre à me raser, notamment pour passer ces étapes là. Du coup, fallait que je rende hommage à tous ces gens qui font des tutos.
Il faut être bien dans le micro, vous dit le technicien Benoît Méry, qui vient de nous rejoindre. Et alors, on précise que vous êtes parfaitement rasé, avec votre petit bouc parfaitement taillé.
J'ai fait ça ce matin.
J'imagine qu'il y a une quantité énorme à explorer d'images pour faire ce film, qui tient aussi du fan footage, beaucoup, du montage d'images. Comment vous avez fait pour ne pas vous perdre dans ce dédale infini?
Ça a été compliqué, je crois que je me suis perdu plusieurs fois. C'était du montage, c'était du travail de montage. Le début était déjà assez écrit. Toute la première partie est très écrite, je savais où j'allais. Et c'est le moment de bascule sur ChatGPT qui était un gros point d'interrogation où là je me suis dit, ok, je vais me laisser porter. Mais toute cette partie-là était quand même très écrite. Et après, ça a été de la recherche de vidéos, trouver des vidéos qui me faisaient rire aussi parce que c'est marrant aussi. Enfin, ça nous renvoie aussi vachement à nous-mêmes, quoi. De se retrouver devant une vidéo à prendre. Enfin, il y a quand même un truc qui, je trouve, parle de lui-même. Du coup, ouais, c'était un gros taf de montage surtout.
Ben, vous avez lâché le mot, le gros mot de ChatGPT. ChatGPT arrive à un moment de votre film et l'air de rien, sous cet aspect à la fois mélancolique et drôle, vous explorez quand même des changements anthropologiques majeurs que nous vivons en ce moment. Alors, il y a celui de se faire donner des leçons par un gamin de 13 ans sur un tuto Internet, mais il y a aussi cette apparition des intelligences artificielles génératives, ce qui tenait du scénario de science-fiction il y a encore 10 ans. Je pense au Her de Spike Jones. On peut remonter encore plus loin, évidemment, au 2001 de Kubrick. C'est maintenant une réalité et vous faites cette expérience étrange où votre personnage, là encore, de demander à ChatGPT d'être votre père. Alors là, ouais. Tout d'un coup, ça devient un abîme total, quoi, existentiel.
Ouais, je voulais pousser le truc et voir jusqu'où ça pouvait aller et à quel moment on pouvait créer cette relation filiale. Et parce qu'Internet... dans le déroulement, Internet suffit plus et l'intelligence artificielle devient une sorte de réponse. Alors au début, il veut pas. Au début, il refuse de prendre ce rôle et en fait, ça devient un acteur, ça devient un jeu dans le film où ChatGPT est pas un outil mais un personnage présent qui a son rôle. D'ailleurs, je lui donne son script et il prend ce rôle à cœur et je voulais voir jusqu'où ça pouvait aller, tester aussi les limites et voilà.
Mais ça va même plus loin parce que ça va jusqu'à l'invention de souvenirs communs.
Ouais.
Et là, tout d'un coup, on est quasiment chez Philippe K. Dick, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui on est. On a une mémoire qui est artificielle, qui est pourtant totalement crédible.
Ouais, ouais.
Peut-être aussi parce qu'elle est constituée de toute la mémoire d'Internet, c'est-à-dire tout ce qu'on vit tous les jours.
C'est ça. C'est un ChatGPT, c'est un mélange de nous tous, de nos expériences communes. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est si universel. Il y a tout un contraste qui joue entre un personnage qui cherche une relation intime et en fait Internet qui lui répond de manière globale et universelle. Et donc il y a plein de choses qui se jouent dans cette limite là et donc on y retrouve en fait l'image du père est en fait hyper photocopiable et hyper applicable par Internet parce que c'est un mélange de nous et du coup on se retrouve avec des réponses hyper bateaux mais hyper crédibles aussi et voilà.
Alexandre Singh, Nathalie de Mousteata, vous avez vu vous aussi
oui.
Ce ni Dieu ni Père.
Oui, absolument. On a trouvé ça très touchant. Oui. C'est l'histoire humaine derrière ça qui élève le film Parce que bien sûr, il y a ce sujet contemporain qui nous intéresse beaucoup, mais c'est la connexion...
personnelle.
Oui.
Oui, on a déjà parlé un peu, mais au début, j'ai pensé un peu à Camille Henrou, un film qu'elle a fait qui s'appelle Grosse fatigue. Mais après, il y a cet aspect très personnel qui m'intrigue et qui me touche, et j'ai adoré le film.
Merci beaucoup.
Oui. Il y a aussi un aspect très intéressant, parce que même si c'est quelque chose de complètement nouveau, notre relation avec l'intelligence artificielle, elle est quand même là dans nos histoires et dans nos mythes depuis 1000 ans, 2000 ans. Et par exemple, je sais que l'intelligence artificielle se conçoit elle-même avec les histoires que nous avons racontées de elle. Et malheureusement, beaucoup de ces histoires sont dystopiques. Alors souvent, quand on demande à une intelligence artificielle d'être une, elle se modèle sur nos histoires.
Ouais, c'est aussi un grand mélange de nos histoires communes. Et je pense que pour raconter une histoire universelle, il faut partir d'un truc personnel pour que ça soit vrai. Enfin, voilà. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ça.
Benoît Méry, on va vous parler, on va plonger même dans un instant dans votre apocalypse. Vous avez eu l'occasion de voir ce Ni Dieu ni Père de Paul Kermarek ?
Malheureusement,
pas encore.
Non. J'ai vu votre film, à vous, que j'ai beaucoup aimé. Donc
deux personnes échangeant de la salive.
Et le tien, je ne l'ai pas encore vu. Je suis absolument désolé.
Ah bah, vous allez vous donner des rendez-vous dans les salles. En tout cas, quelque chose qu'on observe, effectivement, cette année à Clermont-Ferrand. Je pense notamment au film de Sébastien Bédé, Une tentative d'évasion, qu'il a tourné dans le cadre du Festival de La Rochelle l'été dernier, avec des détenus du centre pénitentiaire de Saint-Martin sur l'île de Ré, dont les visages sont transformés par l'intelligence artificielle, pour des raisons de confidentialité, légale aussi. J'imagine, je crois que ici et là, on voit apparaître. Est-ce que pour vous, vous quatre, artistes, cinéastes, la question de l'utilisation de cet outil se pose ?
Nous, on pense souvent parce qu'on l'utilise comme aide pour les petites tâches, par exemple.
Par exemple, pour ce film, on adore faire de recherches avant qu'on tourne sur des images pour les mood boards. Et pour ce film, on est toujours aux librairies.
New York Public Library.
Où on fait plein de recherches. Mais pour les visages du personnage dans le film, on a mélangé des comédiens. Leur visage avec AI pour avoir une idée. Ok, on cherche quelqu'un qui est comme like this person meets this person.
C'est quelque chose qui peut être utile, mais de même, ce qu'on vient de décrire, de mélanger deux images un avec l'autre, c'est un peu ce que l'intelligence artificielle fait quand on fait des recherches sur elle ou on la demande de créer une image. Et dans ce sens-là, ces images sont toujours très moyens. Dans tout le sens du mot.
Moyen, médiocre, voilà.
Ouais. Oui, exactement. Au début, on est étonné que ça peut faire quelque chose, mais cette moyenneté, ça montre que l'humain est très, très important pour diriger cette machine.
C'est bien. Eh bien, on va suivre ça de près. En tout cas, Ni Dieu ni Père, c'est en compétition à Clermont-Ferrand dans la section Labo. Ça aurait pu être le cas aussi du film dont nous allons parler à présent, tant il n'est pas loin de l'expérimental. C'est en tout cas une expérience et une sacrée expérience, même quand il s'agit simplement de se chauffer la voix.
Yeah! Yeah!
être un concert de Frank Zappa et les Mothers of Invention en 1967, mais non, c'est l'été 2023. D'étranges créatures investissent un village médiéval de Loire-Atlantique. Nous sommes à Clisson et c'est le Hellfest. Et c'est là, Benoît Méry, que vous avez posé vos caméras et peut-être plus encore vos micros. On y reviendra pour cet assez sidérant apocalypse en compétition nationale au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Alors, je ne crois pas que vous soyez vous-même un metalhead, comme on désigne les fans de métal. Qu'est-ce qui vous a amené au Hellfest, Benoît Méry ? Vous avez, je crois, travaillé plusieurs années. Et qu'est-ce que vous y avez vu qui a donné naissance à ce film ?
Alors, c'est exactement ça. J'ai travaillé pendant plusieurs années donc pour une boîte de production qui faisait les captations de concerts au Hellfest. Et donc, j'ai fait à peu près 5 ou 6 ans là-bas. Et effectivement, je ne suis pas vraiment un métalleux à la base ou un metalhead, comme on dit. Donc c'était plutôt une souffrance au départ de travailler pendant 3 jours dans ce chaos sonore avec des concerts qui commencent à 10h du matin qui finissent à 2h du matin. Maintenant le Hellfest, je crois que ça dure 4 jours, c'est 400 concerts, 60 000 personnes par jour, il y a 6 scènes, c'est voilà, c'est assez costaud quoi. Qu'est-ce que j'y ai vu? Bah, j'ai mis du temps avant de vraiment regarder les choses et trouver que quelque chose me happait dans ce qui était en train de se passer devant mes yeux. Et c'était tout simplement un rapport à la musique, au plaisir et une certaine ivresse des corps transportés par la musique. Et une fois que j'ai compris qu'il se passait ça devant mes yeux, c'est quelque chose que je peux ressentir moi quand je vais écouter de la musique live, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse un film. Et puis il y avait tellement de séquences dingues et d'images dingues que voilà, j'ai été happé.
Alors, tellement de séquences dingues, vous les avez amassées et vous en faites ce film qui tient... Alors, si vous attendez un reportage sur le Hellfest, c'est pas le cas non plus. Une étude sociologique, ce n'est pas le cas non plus. Vous utilisez ces images comme une matière dont, par le montage, vous faites à la fois une expérience extatique, en tout cas montrant ce qu'est l'expérience de l'extase sous la musique, mais avec ce recul qui vient peut-être du fait que quand vous travailliez vous-même au Hellfest, vous aviez des bouchons d'oreilles, j'imagine, qui vous mettaient une certaine distance par rapport à ce que vous voyez.
Alors non, moi je mettais pas de bouchons d'oreilles.
Vous y alliez à fond.
Sûrement dû en mettre.
Vous avez perdu combien de décibels?
Beaucoup, je pense, beaucoup, mais je sais pas pourquoi j'en mettais pas. Justement, j'avais besoin de ressentir en fait ce que j'étais en train de filmer, ce que j'étais en train de vivre, même quand je faisais pas le film. De toute façon, c'est pas moi qui ai fait l'image de ce film-là. Quelle était la question? Je suis désolé.
C'est la question de la matière que vous avez rassemblée, parce qu'on a presque l'impression, voilà, que vous sculptez ce film.
Bah, effectivement, en fait, moi, j'ai voulu faire un film donc de cinéma du réel, donc du documentaire. Mais pour moi, le documentaire, c'est vraiment un cinéma à part entière, et c'est pas seulement ce qu'on s'imagine, quelque chose proche du reportage ou quelque chose qui a besoin d'une voix off ou qui a besoin d'être guidé. Je fais vraiment confiance dans le pouvoir du réel filmé. Et ce film, en fait, il vient d'un désir justement d'emmener le spectateur jusqu'à cette ivresse sensorielle. Et du coup, je suis vraiment parti à la base d'un film de cinéma du réel assez classique qui se transforme un petit peu en expérimental au bout d'un moment. Et pour ça, effectivement, faut vraiment jouer avec la matière sonore ou la matière de l'image. Le cinéma expérimental, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui raconte à travers des sensations qui sont créées par l'image, le mouvement, le son. Et donc, on a essayé d'aller jusque-là, dans ce film-là. Et c'est vraiment, effectivement, au montage qu'on a pu trouver cette forme-là.
Mais ça passe y compris par l'abstraction du son. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et c'est toujours troublant de voir quelqu'un danser sans savoir sur quoi il danse. Vous montrez, effectivement, peut-être que vous nous attachez au corps en enlevant le son. C'est très curieux.
Oui, effectivement. Donc tout le début du film, enfin les trois quarts du film, sont en son direct. Donc on a longtemps travaillé avec Jérôme Petit, l'ingénieur du son, et qui a fait le montage son aussi, sur comment on allait capter ce son direct, où on allait mettre nos micros. Quel allait être le point d'écoute, qu'est-ce qu'on allait faire entendre sur le réel qui était filmé. Et à partir du moment, on a un turning point, enfin quelque chose qui se passe, et on part sur l'expérimental. Et ce turning point, c'est un groupe satanique qui fait un chant satanique, une messe noire. Moi, j'y tenais vraiment parce que je suis fasciné par ces gens qui chantent Satan sans vraiment en fait y croire, mais c'est un espèce de délire. Je suis toujours fasciné par ça. Donc il y a une messe noire dans le film, et à partir de cette messe noire, la musique emporte tous les festivaliers. Et là, on n'est plus dans le son direct. Avec Jérôme Petit en montage son, on a recréé en fait une composition sonore. Et en fait, moi, je lui ai dit pour vraiment calquer au cinéma expérimental que je connaissais, qu'on allait essayer de partir de la vibration, de l'image, enfin du son, mais de l'image, pas du réel filmé, mais de l'image. Par exemple, un corps qui saute, ça fait quel son par rapport à la surface de l'écran, des frottements, des choses comme ça. Et donc, on a créé une petite composition sonore qui va jusqu'à un climax, voilà.
Et qui amène aussi des effets de foule, c'est-à-dire qu'au début, on a le sentiment d'individus qui s'agrègent, on peut en repérer tel celui qui, avec son t-shirt de la Reine des Neiges, dans son milieu de la foule, et puis tout d'un coup, voilà, on a quelque chose qui est presque orgiaque, ou une représentation de l'enfer, façon Jérôme Bosch, ou autre, vous jouez sur ces masses.
Oui, exactement, c'est vrai qu'au début du film, on a un peu traité les corps de façon en singulier, plutôt qu'ils se rencontraient les uns et les autres, mais dans des confrontations, souvent dans des pogos, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, avec toute cette ivresse et cette grosse montée où le film nous amène, on a traité les corps comme faisant communion et ne faisant plus qu'un seul corps, comme si c'était le corps du Hellfest. Tous les métalleux deviennent le corps du Hellfest. Et de toute façon, ils vivent la musique comme ça, quoi. Je veux dire, quand ils sautent d'un seul homme, c'est vraiment ce qui se passe.
Une dimension comique aussi, hein, il faut le dire, des batailles de caddies. J'ai découvert qu'il y avait des affrontements de caddies au Hellfest, mais il y a quelque chose qui est plus inquiétant peut-être et qui recoupe des polémiques qu'il y a eu au Hellfest, notamment sur des violences sexistes et sexuelles envers des femmes. On voit des femmes à des moments qui sont brinque-ballées, qui sont plus ou moins à l'aise, qui sont au milieu de groupes d'hommes, et je pense évidemment que ce n'est pas pour rien, enfin c'est pas gratuitement que vous avez mis ces plans-là.
Alors, c'est pas gratuitement. Après, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de femmes dans le film, parce que tout simplement, au Hellfest, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a beaucoup d'hommes de 30-40 ans, plutôt blancs, mais c'est le public du Hellfest, c'est comme ça. Après, il y a quand même pas mal de femmes qui sont métalleuses et qui prennent du plaisir. Donc moi, j'ai voulu mettre quand même des images de femmes en communion avec la musique dans le film. Après, effectivement... les histoires
Les histoires que je mentionnais de violences sexistes et sexuelles, il y a eu des polémiques.
Oui, c'est assez récent, ouais. Effectivement, c'est assez récent. Et normalement, c'est vrai que pour la plupart des gens qui connaissent pas la communauté métalleuse, souvent ces gens-là renvoient une image de violence et un peu effrayante. Et en termes de public, c'est quand même le public le plus bienveillant de la terre, de toutes les scènes musicales. C'est vraiment des gens qui sont bienveillants, qui font attention aux autres. Et c'est vrai que du coup, au Hellfest, il n'y avait pas trop eu pendant des années de problèmes de violence sexiste ou de violence sexuelle. Et finalement, le Hellfest a été rattrapé, comme je pense
toute la société.
Et puis le Hellfest a un petit peu changé aussi. Aujourd'hui, il est quand même plus grand, plus industriel. Donc je pense que ça amène aussi ce changement qui est déplorable, mais qui existe.
Alors on a commencé cette émission dans l'univers très policé des grands magasins et on le finit dans l'orgie musicale du Hellfest. Pardon, Alexandre Sting, Nathalie Moustetta, vous avez vu aussi cet apocalypse.
Ah oui.
Oui, oui, on l'a trouvé très, très... dans une façon beau, parce que c'est très conceptuel.
C'est marquant. Moi, je me suis senti que je voyais un autre, pour le dire. Et c'est très intéressant de se surveiller et de comprendre que il me semblait que c'était quelque chose de loin de moi, mais quelque chose de orgiastique et beau. Et cette énergie publique d'être ensemble et devenir un corps, c'est quelque chose qu'on ne voit pas autant dans notre société. C'est quelque chose que, pour revenir au passé, dans la Grèce ancienne, il y avait des rituels où tout le monde...
les bacchanales, quoi.
Les bacchanales qui étaient religieux et aussi sociales et qui créaient une cohésion sociale. Et à part peut-être le foot, il n'y a pas vraiment ces moments où on se délâche de cette façon. Et je pense que c'est très intéressant et très important d'y regarder et y discuter. Ouais.
Paul Kermarek, amateur de heavy metal.
Pas vraiment. J'ai découvert un peu le Hellfest à travers ce film. Et je trouvais que c'était filmé sans jugement. Ouais. Et qu'en fait, je pense que c'est facile de filmer des communautés avec des codes très précis et de trouver. Enfin, là, je trouvais qu'il n'y avait pas. C'était sans jugement, on ne les tournait pas en ridicule, on les idolâtrait pas non plus, et il y avait une manière assez juste de je pense représenter ce mouvement que je connais pas trop, mais du peu que j'en ai vu, j'avais l'impression que il y avait ça quoi qui était important.
Mais je pense qu'en fait il m'a fallu un petit peu de temps à moi-même pour m'enlever mes préjugés et pas avoir de jugement, et c'est pour ça que j'ai mis 5-6 ans à comprendre ce qui se passait vraiment, parce qu'au début voilà, moi j'étais pas très attiré par le métal, du coup je me disais bon c'est pas plus intéressant que ça, ces gens m'intéressent pas, et c'est vrai qu'au bout d'un moment tout ça s'est évaporé, je me suis dit que voilà, c'était le moment de faire le film, il faut avoir ce regard pas neutre mais bien, un peu bienveillant quoi. Enfin moi finalement le Hellfest maintenant j'adore, les métalleux je les aime, c'est voilà. J'écoute pas encore énormément de métal mais ça viendra.
Et on les aime beaucoup aussi grâce à vous. Je pense que c'est pas tous les jours qu'on entend du métal à la Comédie de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup Benoît Méry. Votre film Apocalypse est en compétition nationale au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand et il est visible gratuitement jusqu'à demain sur telerama.fr. Le Festival de Clermont-Ferrand se poursuit jusqu'au 8 février avec ses compétitions, mais aussi un focus géographique sur le Liban qui prouve ce focus une fois encore combien, malgré 50 années de tourmente, aujourd'hui encore le pays du cèdre reste un extraordinaire et toujours aussi prolifique territoire de cinéma. On trouve aussi pendant tout le festival une rétrospective thématique Le bruit qui court, qui met en valeur, comme son nom l'indique, la dimension sonore du cinéma, comme dans Apocalypse. France Culture s'y associe avec la proposition d'expérience sonore en 3D avec 4 créations phares de notre service fiction. Pasolini Portrait d'artiste, une création sonore sur le tournage du film Pasolini d'Abel Ferrara, avec Abel Ferrara et Patti Smith. Il y a aussi Fureur, une fiction fantastique, Fossile sonore, un docu-fiction, et La Japonaise, une création sonore d'après un scénario inédit d'Alain Robbe-Grillet. Le cinéma sonore de France Culture, c'est du 3 au 6 février au studio de la Comédie de Clermont-Ferrand, et ce sera suivi à chaque fois d'un échange avec les équipes qui le fabriquent. Le court-métrage est aussi à l'honneur sur France Télévisions avec 15 films, dont bon nombre en compétition cette année, diffusés sur les antennes du groupe et visibles gratuitement sur la plateforme France.tv. Et puis il y a d'autres festivals quand même en France à signaler ces jours-ci. À Rennes, c'est Travelling qui met à l'honneur du 4 au 11 février le réalisateur Bo Widerberg. À la Ferme du Buisson à Noisiel, en banlieue parisienne, c'est cette année encore Si loin, si proche, le festival des cinémas des Cambodges, Laos et Vietnam. C'est du 5 au 9 février. Puis les Pays-Baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie ont eu aussi leur festival maintenant pour la première année. Ça s'appelle Ciné-Baltique et c'est du 6 au 9 février au cinéma L'Arlequin à Paris. Et puis si vous êtes plutôt lyonnais, vous pourrez comparer les mérites respectifs d'Audrey Burn et de Stephen King. Ils ont droit tous deux à une rétrospective à l'Institut Lumière. C'est à partir de demain et jusqu'à début avril. Et puis ce soir, écoutez Mauvais Genre. Mauvais Genre rendra hommage à David Lynch. On se remet toujours pas de sa disparition. Ce sera avec Pacôme Thielman. C'est à 20h sur France Culture. Ceci annoncé, c'est le moment de quelques ritournelles et dialogues amoureux.
Tell me the tales that to me were so dear. Long, long ago, long, long ago. Sing me the songs I delighted
to hear. Amon boktitar poro tumi biliti shur bhancho.
Tahole ki shur bhanchbo?
Kirtan, shama shungit, Nidhu babu toppa.
ঢালো ঢালো কাঁচা অঙ্গের লাবণী, ঢালো ঢালো কাঁচা অঙ্গের লাবণী, অবণী বহিয়া যায়।
That's better.
ভদ্রলোক কিন্তু বলেন ভালোই, ভাষার উপর বেশ দখল আছে।
কলেজে ডিবেট করতো
সাদ হাসির তরঙ্গ হিললে বেশ লাগছিল দেখতে গেরুয়া পড়া ছেলেগুলোকে মদন মুরছা পায়।
Même celles et ceux de nos auditrices et auditeurs qui ne maîtrisent pas parfaitement le bengali auront perçu la relation amoureuse entre les deux personnages qu'on vient d'entendre. En l'occurrence, ils sont mariés. Lui, c'est un prince et riche propriétaire terrien, épris de culture occidentale, à tel point qu'il est prêt à laisser son aimante épouse sortir de son riche palais et découvrir le monde dont fait partie celui qui est l'objet de leur discussion, un très charismatique leader nationaliste qui vient d'appeler en ce début du XXe siècle à lutter contre le colon britannique et la partition forcée du Bengale que le colon vient d'imposer. Ce bientôt triangle amoureux est au centre de La Maison et le Monde, chef-d'œuvre tardif, on est en 1984, du grand Satyajit Ray, qui rêvait de ce film depuis ses débuts. Il a écrit le scénario dès 1948 pour adapter le roman de son compatriote et prix Nobel de littérature en 1913, Rabindranath Tagore. Le film est ressorti en version restaurée ce mercredi et c'est une double histoire d'émancipation, Sandra Onana, émancipation politique comme personnelle.
On a l'impression que tous les films sur l'engagement intime et politique pourraient porter ce titre, La Maison et le Monde, parce qu'en effet, c'est une histoire de scission, de partition à plus d'un titre, pas seulement la scission entre les hindous et les musulmans, c'est l'histoire d'un cœur dont on a déplacé le centre de gravité, en fait. Et le film stylise avec beaucoup de soin cette tension entre le dedans, le dehors. C'est le programme annoncé par cette réplique que le film va rediscuter. « Je n'ai pas besoin de changer le monde, je changerai ma maison ». Donc pas si simple, sachant que dehors, donc, il y a cette rumeur du monde qui gronde. On est en pleine montée de l'indépendantisme dans l'Inde coloniale et du mouvement de boycott contre les produits britanniques importés. Et puis, à l'écart de cette chose publique qui est portée par les premiers leaders nationalistes, il y a donc le foyer, le mariage. Alors l'idée, c'est que ce monde extérieur, on va toujours l'observer à travers une balustrade, on va le filtrer avec des vitraux. La première fois qu'une fenêtre s'ouvre en laissant apercevoir dans le film les palmiers de la campagne du Bengale, le choc est assez dingue, ça fait l'effet d'un coup de ciseau dans l'écran. Et c'est ça qui va donner cette réalité spatiale au triangle amoureux, parce que le monde aux yeux de notre héroïne, qui s'appelle Bimala au début, bah, il tient strictement dans les dimensions de ses appartements où elle se cloître de son plein gré. Elle le fait par modestie féminine, par respect des traditions, alors que son mari, en effet, ne demande qu'à faire d'elle une épouse moderne. Ce qui est intéressant, c'est que cet époux éclairé, idéalisé à l'occidental, il va d'abord faire entrer le monde dans la maison en sensibilisant sa femme à la culture britannique. Et puis, le motif tragique autour duquel se noue l'intrigue, c'est le moment où il la poussera dehors et fatalement dans les bras d'un autre homme. Ce qui donne ces scènes de mélodrame extrêmement brillantes, parce qu'en fait, il s'agit toujours d'un personnage qui est artisan de sa propre perte, par aveuglement, alors qu'il possédait tout, ou par pulsion de tout perdre, on ne sait pas trop, par orgueil aussi, parce qu'il a envie que d'autres hommes, en fait, admirent sa femme. Donc en fait, rien n'est binaire dans le film et dans les désirs, les impulsions contraires des personnages. Typiquement, le trait le plus bouleversant de cette héroïne de mélodrame quand elle tombe sous le charme du rival que son mari l'a forcé à fréquenter, c'est qu'elle devient captive de la loi qu'elle s'impose à elle-même. C'est un peu la princesse de Clèves au Bengale, en fait, ce film. Une fois qu'elle a goûté à la tentation de la passion hors mariage, elle s'auto-punit en se retranchant dans ses quartiers, ce que littéralement personne ne la force à faire. Elle est aussi là, la modernité du film, sachant que Satyajit Ray, c'est voilà, la caste privilégiée de Calcutta, c'est des valeurs progressistes. Sa morale, elle se range plutôt du côté de l'expérience et elle se range du côté de la vie. Il n'y a vraiment rien dans l'enchaînement tragique du film qui viserait à nous refourguer une leçon de principe du type « Mesdames, vous savez quoi faire la prochaine fois, gardez-vous bien d'aller vivre quelque chose hors de la maison ». L'enfer, ce serait quand même de donner raison à ce personnage de belle-sœur bien-pensante dans le film qui tient un rôle assez théâtral, en fait. C'est celui du cœur antique, c'est-à-dire qu'elle se lamente de la tragédie inévitable à venir. Elle fait partie de ces personnages dont on a l'impression qu'ils nous fixent en regard caméra quand elle monologue. En fait, c'est plus troublant que ça. C'est comme si elle regardait quelques centimètres au-dessus de l'objectif dans un intermonde entre la fiction et l'adresse directe au public. Et puis un mot quand même sur la musique, parce qu'on sait que Sajid Jitray composait ses bandes originales et le statut du chant dans les films indiens se traîne normalement une réputation à l'eau de rose. Ici, vraiment rien n'est laissé au hasard dans l'utilisation du chant. C'est pas une comédie musicale bollywoodienne, rien à voir. Le cas le plus exemplaire, c'est cette scène de conversation dans l'intimité du couple qu'on a entendue, où Bimala essaye de dissimuler à son mari le trouble que lui inspire cet autre homme, avec l'air détaché, tout en fredonnant une ballade amoureuse. Donc double discours, on dit un truc, on en chante un autre. Autre cas, quand on fait la rencontre du leader nationaliste qui entonne un chant exalté comme ça au milieu du thé, du tea time, et on lui dit « Ah oui, tiens, c'est vrai que le refrain entre dans la tête. » Donc appel de phare du film, ça veut dire « Attention, Baratimer, ces moments de lyrisme à lui servirait peut-être à pointer la personnalité d'un démagogue potentiellement corrompu par le pouvoir. » Bon, alors, c'est vraiment pas la tannée pour le spectateur d'être à huis clos pendant 2 heures dans ce palais princier, faut bien le dire, étant donné la magnificence des décors. C'est un festival de couleurs, de boiseries, de miroirs, de déambulation de personnages dans des lumières dorées. C'est vraiment un régal à regarder. Et puis, les impressions esthétiques du film débordent vraiment le périmètre du cinéma indien. Parfois, on se dit que Satya Jitray, il aurait adoré les larmes amères de Petra Van Kant, de Werner Fassbinder. Et puis là, en l'occurrence, c'est les larmes amères de Bimala au cinéma. On n'avait encore jamais vu ça.
La maison et le monde de Satya Jitray sont ressortis en salle en version restaurée ce mercredi. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à la Comédie de Clermont-Ferrand de nous avoir accueillis, au public qui est venu assister à cette émission, aux équipes d'ici Pays d'Auvergne pour les moyens techniques, Philippe Abel, Stéphane Ourlier et Ludovic Guittard, à la prise de son à Clermont-Ferrand, Céline Bonhomme-Monge et Loïc Frenéa, et à Paris, Jean-Guy Lamège. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel et Émilie Valla.